تعالى. Bien, nous allons avancer, reprendre tranquillement notre route vers l'exploration dans le Nouveau Testament de cette notion de vie, la vie pour vivre, en nous attachant à l'expression lui-même de Jésus qui se définit comme étant le chemin, la vérité et la vie. La formule typique, on la trouve que dans le quatrième évangile, quand Jésus parle de lui-même, il dit « Moi, je suis ». Il n'apparaît accompagné de trois attributs que dans cette formule « chemin, vérité et vie ». C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 14. Alors voyons un peu le contexte. En disant cela, Jésus cherche à apaiser le cœur de ses disciples qui sont troublés par la scène. L'épisode de la scène au chapitre 13 de l'évangile de Jean est juste ce qui précède cette grande déclaration de Jésus, Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Au cours de ce repas, dans cette atmosphère de Pâques, dans ce climat de lâchage, d'abandon généralisé, Jésus met en œuvre son amour extrême. Il est l'agneau de Pâques qui enlève le péché du monde. Il s'est dévoilé dès sa rencontre avec la Samaritaine quand il a dit « Moi, je suis ». Il est déjà condamné à mort, mais il rassure ses disciples dans la tempête sur la mer de Tibériade. Quand il a dit « Moi, je suis, ne craignez pas ». Il s'est offert comme le pain vivant descendu du ciel. « Je suis le pain du ciel ». Tout ça, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 4, 5, 6. Condamné à tort, sans lui-même condamner personne, il s'est révélé comme « Je suis la lumière du monde », chapitre 8. Dans le prolongement de la guérison d'un aveugle de naissance à Jérusalem, il se définit comme « Je suis la porte des brebis », chapitre 10. « Je suis le bon pasteur, le beau pasteur », chapitre 10. N'est-il pas en effet celui par qui l'on entre dans la communauté des croyants et celui qui la dirige? Il est bien le Fils de Dieu, tellement désarmé que rien en lui ne peut prêter à aucune accusation d'idolâtrie. À Marthe, la sœur de Marie, qu'il ramène à la vie, il peut encore dire « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout ce qui vit et qui croit en moi ne mourra pas. » Chapitre 11. Il est vraiment donc la vie, l'appel à la vie, le passage à la vie, l'entrée dans la vie, presque le passage, pas presque, carrément, le passage obligé pour découvrir ce qu'est la vie selon Dieu. Et il l'est lui-même. Jésus a donc montré dans ses faits et gestes, par ses paroles et ses discours, à quel point il est le seul à permettre le passage de ce monde au à l'origine de tout, comme parole du Père, dans le prologue, il conduit à la fin ultime de tous. Ce chemin qui fait passer de l'origine à la fin, c'est, comme on dit, l'amour achevé, l'amour total, une des marques de l'évangile de Jean, notamment au chapitre 19, l'amour donné complètement, et l'amour qui ouvre à la vie. Sa mort sur la croix, consenti le soir de la scène, sera mort d'amour et de Dieu et des autres. Son chemin introduit dans sa propre relation au Père et dans sa juste relation à chacun. Il accomplira ainsi la Torah, cette loi ancienne, et la sagesse d'Israël. Je cite, « Et maintenant, Israël, que tu demandes à Adonai ton Dieu, sinon de craindre Adonai ton Dieu, de suivre tous ses chemins, de l'aimer, de servir Adonai ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. On l'a déjà vu dans le livre du Deutéronome. Encore cette idée de vie et d'accomplissement de cette vie annoncée dans le Deutéronome et le Premier Testament, que Jésus accomplit, pas simplement accomplit, mais vit, est lui-même. Le Deutéronome consigne le long discours d'adieu que Moïse est censé avoir prononcé dans les plaines de Moab avant sa mort, sans pouvoir entrer avec son peuple en terre promise. Jésus épouse ce modèle dans ses propres adieux. Il n'est pas un nouveau Moïse, il accomplit Moïse, parce qu'il est le chemin par excellence, sûr d'entrer dans la terre promise, qu'est le Père en personne. Moïse a pris sur lui le péché de son peuple, en lui permettant d'entrer où il ne peut aller. Jésus retourne au Père, d'où il vient, en enlevant le péché du monde, pour entraîner quiconque veut le suivre, au lieu où l'attend le Père, et qui est encore le Père lui-même. Cette vie que nous connaissons, que nous traversons, et on le dit dans la foi avec la présence du Seigneur, évidemment on le sait, c'est pas à vous que on le sait, on le croit, c'est pas à vous que je vais révéler quelque chose, c'est pas un scoop ici, mais dans cette idée-là, il y a une vie qui se prolonge, qui commence dès maintenant bien évidemment, mais qui trouve son accomplissement en Dieu, dans le Père. C'est toute la trajectoire qu'emprunte Jésus et que l'on emprunte avec lui en voulant le suivre. Quand il vous dit « suis-moi », c'est là qu'on va. C'est au Père qu'on va. C'est pas le suivre ailleurs, c'est pas le suivre pour un petit temps, c'est là qu'on va. Après le chemin, suivez-moi et vous verrez bien. Ça aussi, il le dit. Venez, vous verrez. Comment on fait? Où demeures-tu? C'est la première question des apôtres. Où demeures-tu? Où demeures-tu? Venez, vous verrez. Et ce venez et vous verrez, ça renverse un petit peu nos représentations et nos manières de faire. Nous, on est plutôt du genre, je vois et éventuellement je viens si ça me plaît. Mais venir et voir ensuite, c'est vraiment un saut de la foi et un saut de la confiance. Mais c'est bien dans cet ordre-là que Jésus invite ses disciples à le suivre. Venez et vous verrez. Et ça casse nos représentations. On dit, attendez, je vais quand même d'abord vérifier. Si ça me plaît, je viendrai. C'est un bouleversement. S'il est le chemin, c'est aussi parce que Jésus est la vérité. La vérité au sens grec du terme consiste en l'adéquation de l'intelligence et de la chose. La vérité sémitique est plus symbolique, moins conceptuelle que relationnelle. Son symbole est le rocher qui tient, Dieu ou le partenaire de la relation sur qui s'appuyer. C'est ça la vérité, quelque chose de solide. On le trouve pour un juif. On le trouve dans le psaume 95, dans le Deutéronome aussi, dans le livre d'Isaïe. La vie, quant à elle, ne se réduit pas à la vie biologique mortelle. Elle est le propre de Dieu, de son verbe parole, Jésus-Christ, en vue de sa communication à toute créature. La vie éternelle est l'équivalent du royaume des cieux. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Elle est donc synthèse possible de la foi juive, de la confession de la foi trinitaire chrétienne. Le Père et le Fils évoqués, l'Esprit transparaît dans cette vie éternelle. Et cela est solide. Quand vous communiez et que vous dites Amen à la présentation du corps du Christ comme pain dans le pain eucharistique. Aujourd'hui, le mot Amen est peu connu par vous parce que vous en maîtrisez le sens. Et pour beaucoup de chrétiens, il n'est pas forcément connu, qui n'ont que des bribes peut-être de catéchèse. Pour certains enfants, amen, c'est l'impératif du verbe amener. Hein. Amen. Le corps du Christ, amen. Alors ils vous disent merci. Amen, ce n'est pas non plus la traduction, ou du moins ainsi soit-il, n'est pas la traduction de amen. Ça n'a rien à voir. Amen, c'est un mot hébreu qui signifie c'est solide. Ainsi soit-il, c'est autre chose. Ainsi soit-il, si vous avez fait un peu de grammaire, qu'il en soit ainsi. Ainsi soit-il, ben on verra. Ainsi soit-il, ça deviendra, peut-être, pas tout de suite. Ainsi soit-il, on l'espère. Ah, je perds des sous, moi. Je l'espère. Mais amen, c'est pas je l'espère et qu'il en soit ainsi. Amen, c'est solide. Au moins autant que cette table, comme un rocher, c'est solide. Donc, ce n'est pas la même traduction. Et aujourd'hui, on entend certains petits jeunes qui vous traduisent « ainsi soit-il », mais c'est le corps du Christ, ainsi soit-il, non. C'est pas le corps du Christ qu'il en soit ainsi. Non, c'est le corps du Christ. Amen. Mais ça, il y a beaucoup de pertes de sens par rapport à ça. Et pourtant, c'est bien ça la vie qui nous est proposée. Et cette vie dans le corps du Christ qui nous est proposée, c'est cette vie-là que je veux partager. Et comment elle se passe, en fait, cette vie? Qu'est-ce que c'est que le corps du Christ, finalement, auquel on communie à chaque messe? La matière première du corps du Christ, c'est quoi? C'est le pain et le vin qui sont apportés à l'autel. On est d'accord? C'est ça la matière première. Et ce pain et ce vin apportés à l'autel, tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, ce vin, fruit de la vie, fruit du travail des hommes. Il deviendra le pain de la vie, le fruit du travail. En hébreu aussi, dans la tradition sémitique plutôt, le travail c'est tout ce que l'homme peut faire, apporter. C'est pas simplement travailler, je sais pas, un maçon ou un peintre ou un boulanger. C'est plus que le travail. Sinon, les enfants ne peuvent pas communier parce qu'ils travaillent pas. Et puis vous ne travaillez plus, a priori, au moins sur un travail salarié. Donc comment on fait? Non, c'est pas un travail entendu comme salarié, c'est tout ce que l'on amène de soi. Et c'est cela qui est présenté au Seigneur, toute notre vie, ses offrandes, pain et vin à la messe, ce que nous sommes, ce que nous pouvons donner du meilleur de nous-mêmes, ce que nous apportons, ce que notre présence dans le monde fait que le monde change. Ne serait-ce que même si on se tait et on ne fait rien du tout, notre présence en tout cas occupe de l'espace et change l'espace du monde. Il ne s'agit pas de faire mille choses, il s'agit d'être vivant et d'être là. Et c'est sur ce pain et ce vin que va être appelé l'Esprit Saint, sanctifie Seigneur ses offrandes, pour devenir corps et sang du Christ et nous être rendus en communion. Le corps et le sang du Christ dans la communion, c'est pas des météorites qui tombent de nulle part, hein. C'est pas un truc qui tombe comme ça. C'est d'abord ce pain et ce vin qui a été apporté toute notre vie, saisi par le Seigneur, assumé par le Seigneur, tellement assumé par le Seigneur qu'il devient nous ou que nous devenions lui. En tout cas, il assume toute notre existence et cette vie, toute notre existence est transformée par sa présence qui nous est rendue en communion. La matière première que sont nos vies, tout notre travail est transformé par la présence du Seigneur et c'est cela qui nous donne vie. Et c'est cela qui nous donne vie. Et pourquoi faire? Et pourquoi faire? On va faire une petite traversée de la messe pour pouvoir le comprendre. Quand on commence la messe, les premières paroles qui sont données quand un évêque est présent, c'est « la paix soit avec vous ». Ok ? Alors, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, le prêtre en général ne dit pas la paix. Mais quand un évêque est là, il dit la paix. C'est un des premiers mots qui apparaît dans la salutation liturgique pendant la messe. Ensuite, on va chanter un chant. Alors, il y a le Kyrie, ça on l'a vu. On va chanter un chant qui va être le chant du « Gloire à Dieu ». Gloire à Dieu et paix sur la terre. Ce sont les premiers mots prononcés après la lecture de Jésus. La naissance, pardon, de Jésus, excusez-moi. Au jour de Noël, au jour de Noël, au jour de la naissance de Jésus à Bethléem, le chant des anges, les premiers mots prononcés sont « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre ». D'accord? Donc cette histoire de paix, elle commence, elle encadre la messe. Elle est déjà là présente au début, elle va se décliner dans le chant du « Gloire à Dieu » et elle va aussi finalement s'exprimer, s'expliciter dans les lectures que l'on va lire, puisqu'encore une fois, les derniers mots de Jésus après, parmi les derniers mots de Jésus après sa résurrection, c'est « Shalom, la paix soit avec vous ». Il a dit la shalom, hein, je pense qu'il parlait hébreu, ou au moins araméen. Shalom, quand il salue ses apôtres, la paix soit avec vous. Les derniers mots, un peu comme, vous savez, un peu des mots testaments, les derniers mots sont ceux de les plus importants finalement dans une vie. On recueille les derniers mots, les dernières paroles, c'est les paroles les plus importantes, et parmi ces dernières paroles les plus importantes, c'est à chaque fois la salutation de Jésus quand il apparaît à ses disciples après la résurrection. La paix soit avec vous. Et alors à la messe, une fois qu'on a dit le Notre Père, qu'est-ce qui se passe? Le Notre Père est dit, et la prière qui suit s'appelle l'embolisme. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal, et donne la paix à notre temps. Très bien. Ensuite, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres. Quand est-ce qu'il a dit ça à Jésus? Quand est-ce, c'est où dans l'évangile? Et non. Après la résurrection, Jésus dit pas je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Il dit la paix. Mais il dit pas ça. Je vous laisse la paix, je donne ma paix, c'est au chapitre 14, dans le même chapitre que on est en train de regarder sur Je suis le chemin, la vérité et la vie. Grosso modo, je vous resitue la scène. Vous avez un apôtre un peu obscur, dans le sens où il n'apparaît qu'à cet endroit-là. C'est ce brave Jude. Le Jude, on n'en parle pas beaucoup, hein. Eh bien, il va voir Jésus. Alors, je raconte l'histoire un petit peu comme je l'ai fait avec Pierre, hein, l'autre jour, donc c'est pas exactement les mots, mais vous relirez ça dans le chapitre 14. Jude, en fait, voit un groupe de personnes qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en Jésus. Il les voit un peu plus loin, il ne croit pas en tout cas que Jésus est Dieu. Et donc, il va voir Jésus, il lui dit, écoute, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens comme eux là-bas qui ne croient pas du tout en toi et ça change rien à leur vie? Enfin, il se passe rien, ils éprouvent pas le besoin de croire en toi spécialement. Et nous, bon, on croit en toi. Mais pourquoi est-ce que eux ne croient pas en toi? Et c'est à ce moment-là que Jésus répond, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et là, on se dit, non, mais attends, Jésus, c'est pas la question que je t'ai posée. La question que je t'ai posée, c'est pourquoi est-ce que Marie-Jeanne, Janine et Thomas, là-bas, qui sont juste à côté, ne croient pas en toi et nous, on croit en toi. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et là, on va comprendre, du coup, que cette paix va devenir quelque chose de l'ordre de la mission. Juste après, je reviens à la messe, juste après, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je donne ma paix. Juste après, qu'est-ce qui va se passer? Oui, d'accord. Et après cette prière-là, qu'est-ce qui se passe? Ça fait partie de la même prière, effectivement. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, quand on laisse le temps au prêtre de le dire, pour qu'elle puisse être passée, effectivement, c'est le moment où on se donne cette paix. Il faut bien commencer quelque part. Alors on pourrait se dire, mais dites donc, ils n'avaient plus d'idées dans la messe, là, à mettre le mot paix à peu près à toutes les formules et à toutes les prières qui suivent après le Notre Père, vous voyez, paix, 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 paix partout. On pourrait se dire, ils n'avaient plus d'idées ou quoi? Ou alors justement, c'est parce que là, il y a une concentration de cette paix qui est très très importante à comprendre. Et cette paix, elle a à voir avec la manière de vivre. C'est pas simplement vivre en paix, tranquillou les uns avec les autres, je t'embête pas, tu m'embêtes pas. C'est la manière de vivre selon, profondément, ce que Dieu veut. La paix, l'unité intérieure, la pacification, tout ce qui en nous peut être parfois un petit peu déboussolé, eh bien vivre de cette manière-là. Et juste après, on va chanter « Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié et donne-nous la paix », comme si ça ne suffisait pas. Et là seulement on communie. Avec, encore une fois, le pain et le vin, non pas du pain et du vin qui sortent de nulle part, voilà, mais dont la matière première a été ce pain et ce vin apporté à l'autel qui était le travail des hommes et des femmes, sur lequel on a appelé l'esprit de vie pour devenir corps et sang du Christ et qui est rendu en communion. Qui est rendu en communion comme ma vie, saisie par le Christ, transformée par sa présence, reçue avec le tout de sa vie pour que je sois en paix. Donne-nous la paix pour que je sois en paix, autrement dit, pour que je vive selon toute la dimension de la vie voulue dans l'évangile, dont l'évangile et la parole de Dieu parlent. Et ensuite, après avoir communié, et la prière après la communion, et puis on arrive au dernier moment de la messe qui est le moment de l'envoi, et là, qu'est-ce qu'on dit? Allez dans la... Bah tiens. Encore une fois, c'est pas parce que les gars, ils avaient plus d'idées, hein, et qu'ils ont, ils ont mis le mot paix à peu près à toutes les, dans toutes les prières. C'est parce que maintenant, vivez en cohérence avec ce que vous avez reçu. Vivez de ma vie. J'ai saisi votre vie en communion. En gros, c'est une manière de reconnaître que vous acceptez que le Seigneur se saisisse de toute notre existence, qu'il la transforme, qu'il l'habite. Il y a une très très belle, ben vous connaissez tous hein, cette expression de Saint-Irénée, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Ou vous connaissez aussi cette magnifique préface pour le temps de Noël, il se fait tellement l'un de nous que nous devenons éternels. Il y a vraiment dans ces prières-là quelque chose d'une confession de foi liée profondément à l'Eucharistie et à la vie qui nous est donnée à ce moment-là. Rien à voir avec quelque chose d'extérieur qui ne serait pas nous. Rien à voir avec un Dieu qui n'aurait pas envie de se compromettre avec notre existence. Oh, tu es tellement loin. Mais non, ne mettez pas de frein à l'incarnation. Il veut devenir homme. Ne lui dites pas de rester dans son ciel. Qu'est-ce que c'est que ces manières de prier? On dit, toi surtout reste là-haut. Hein. Rien à voir avec nous. Mais la volonté de Dieu, c'est de se faire homme. Pourquoi est-ce qu'on lui dit non? Et se faire homme, c'est épouser toutes les ambiguïtés de notre personnalité. Le Fils de l'homme mange, vous dites, c'est un glouton. Il n'a pas fait en sorte de vouloir paraître je ne sais quoi, ascète ou je ne sais quoi. Il a vécu, tout simplement. Et donc, du coup, toutes les aspérités de notre vie, tous les contours de notre vie, toutes les profondeurs parfois de notre vie, les choses plus ou moins belles de notre vie, c'est pas ce qui effraie le bon Dieu. Hein. Vous n'avez pas besoin ni de le cacher, de toute façon, ni de le cacher, ni d'en avoir peur. Il le saisit, il l'habite de sa présence, il le transforme par sa présence. Et c'est comme ça qu'on devient saint. C'est comme ça qu'on devient saint. Pas en étant gentil. Pour être gentil, il ne faut pas être chrétien spécialement. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens qui sont plus gentils que nous. Être chrétien, c'est accepter que Dieu se saisisse de ma vie. Et me redonne vie, selon lui. Selon lui. Et un des freins par rapport à cela, un des scrupules par rapport à cela, que l'on habille même de religiosité, c'est « je ne suis pas digne, non, ne t'approche pas de moi, mais alors tu ne laisses pas Dieu agir en toi ». Le curé d'Ars disait à des personnes qui pensaient qu'ils ne pouvaient communier qu'en étant en état de grâce, etc., sans péché, il dit « mais tu ne communies pas parce que tu es parfait ou je ne sais quoi, c'est pas une récompense la communion, c'est parce que tu en as besoin. Tu communies parce que tu en as besoin pour transformer ta vie. Et nous, on en a fait un bon point d'école. T'as été gentil, ben tu peux. T'as pas été gentil, ben d'abord tu vas passer au coin avec un bonnet d'âne, t'attends quelques minutes, tu demandes pardon et puis tu pourras revenir. Qu'est-ce qu'on est? Quel temps perdu. Et avec ça, le temps passe et on empêche Dieu de venir dans nos vies et de la rencontrer. Parce que si on attend d'être parfait pour rencontrer le bon Dieu, ben écoutez, on peut tous s'arrêter. Recevoir la vie de Dieu. Voilà, c'est ça l'enjeu. Recevoir la vie de Dieu. Moi, je suis le chemin parce que je suis la vérité et donc la vie. Fait de la vérité le sommet des trois attributs. Jésus révèle en effet Dieu et l'homme dans le Verbe incarné qu'il est, discernable en toute étincelle de vérité éparse dans le monde. Moi, je suis le chemin et la vérité parce que je suis la vie, met l'accent sur l'attribut final et semble plus conforme aux données du quatrième évangile. Le but de la révélation à la lumière du Christ, c'est de communiquer et de recevoir la vie même de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui est amour. Et là, c'est la première lettre de Jean qui le dit comme ça, chapitre 4, verset 8. On va lire un autre passage pour ensuite... Alors, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il va me remettre mes vieux fondateurs? J'étais sûr. J'en étais sûr. Alors. Accepter, il faut que je repasse toutes les diapos. Ça c'était hier. Et voilà. On va relire le passage d'Emmaüs, si vous le voulez bien. Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. C'est moins loin que le Rocamadour. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. Il leur dit, quels événements? Ils lui répondirent, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré et l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, les femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges, qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » Non pas comme hier, mais pour vous personnellement, je vous invite à prendre peut-être juste 2-3 minutes pour, à partir de ce texte, essayer de voir comment Jésus s'y prend pour révéler qu'il est vivant. Comment Jésus s'y prend, comment les apôtres, ou du moins les deux disciples, Cléophas et l'autre, répondent à la présence de ce vivant à côté d'eux. Qu'est-ce qui se passe quand le vivant les rencontre, pour eux-mêmes et même pour Jésus? Quelle est la méthode, entre guillemets, que Jésus emploie d'une certaine manière pour se révéler? Je vous donne 2 petites minutes comme ça, écrivez ce qui vous passe par la tête. À partir de ce texte. Très, on va dire, c'est tenté que ça puisse être juste de s'appeler comme ça, mais on va dire le style pastoral de Jésus. Sa manière, en tout cas, de révéler sa présence comme vivant et d'inviter à partager sa vie à ceux qui les entourent, en prenant un petit peu cet exemple, cet appui du texte des pèlerins d'Emmaüs. D'abord, Jésus va jusqu'à eux, là où ils en sont, là où ils en sont. Découvrir la présence du ressuscité dans ma vie, c'est pas la chercher ailleurs, sa présence de la résurrection. C'est pas la chercher ailleurs dans une autre attitude, une autre manière de se comporter ou je ne sais quoi. C'est dans ce qui fait notre vie, c'est là que Jésus nous rejoint, pas ailleurs. Ensuite, Jésus va leur poser une question. C'est pour s'ouvrir à la vie, c'est s'ouvrir à la question, c'est-à-dire s'ouvrir à quelque chose que l'on ne connaît pas en plénitude ou que l'on a encore à découvrir. A priori, si on pose une question, c'est qu'on ne connaît pas la réponse. Donc, par rapport à cette vie qui nous rencontre ou quand elle nous rencontre, il y a quelque chose de nouveau à apprendre. Jésus commence un dialogue. Eh oui. Il est comme ça, le bon Dieu. Il veut nous parler. Il veut nous parler, il a quelque chose à nous dire, et il croit même qu'on a quelque chose à lui dire. Un dialogue, pour qu'il y ait un dialogue, il ne faut pas que ce soit un monologue. Donc un dialogue suppose que l'on a quelque chose à dire au Seigneur. Passage, sans doute, par la prière. Jésus rejoint ensuite quelque chose au fond d'eux-mêmes. Cette tristesse qu'ils ont au fond d'eux-mêmes, pour eux. Jésus va, là, apporter sa présence et sa vie au fond d'eux-mêmes. Jésus, ensuite, une fois qu'il a rejoint, va faire la route avec eux, va faire le chemin avec eux. Dieu marche avec nous, et même dans le mauvais sens. Là, il quitte Jérusalem. Il retrouve le bon sens à la fin, hein, quand ils reviennent à Jérusalem. Mais là, il s'en éloigne. Jésus, le Seigneur, dans sa rencontre pour petit à petit se manifester à nous, est prêt à marcher dans le mauvais sens. Étonnant. Étonnant. Jésus les amène vers une rencontre avec lui. Cette rencontre passe dans ce pain partagé dans cette auberge. Sans s'imposer. Fais mine de partir plus loin. Non, non, mais reste avec nous. On n'a pas tout compris de ta vérité, de ta présence, tout ça. Mais ça a l'air pas mal ce que tu nous dis. Alors reste avec nous encore un peu. La délicatesse de Dieu, prêt à marcher à contre-courant et dans le sens inverse pour se manifester à nous, sans même s'imposer. Il est même prêt à aller encore plus loin dans le sens inverse que nous. Eux, ils s'arrêtent à l'auberge d'Emmaüs, lui, il est prêt à continuer la route. Il dit « Alors, reviens !» Comme pour dire, voilà, personne n'est trop loin pour le rencontrer. Il est encore prêt à aller plus loin que que nous, d'une certaine manière, dans le mauvais sens, ou dans les mauvaises routes, ou dans les mauvais chemins. Et une fois que l'on appelle sa présence, sans forcément déceler qu'elle est telle, mais simplement parce que le soir baisse, parce que voilà, qu'il a plu, il faut que tu restes avec nous, il va se révéler à nous dans ce geste de l'Eucharistie, ce pain partagé, dont Emmaüs est l'illustration, pour que la vie reprenne. On va rebrousser chemin, donc c'est fini, le fait de s'éloigner, de prendre la mauvaise route, on rebrousse chemin pour retrouver la communauté de Jérusalem, retrouver l'Église. Dans la vie religieuse des Emmaüs, on peut en vivre plusieurs fois. Hein. Ah, pas. J'en ai marre. Je voulais être religieuse et puis, tout ça, je m'en vais. Je m'éloigne. Pas peine de partir physiquement. Il y a des gens qui sont dans la vie religieuse et qui n'y sont plus depuis bien longtemps. Alors on critique les sœurs, on critique les frères, on sait ceci, c'est cela. Ils sont... Parce que je croyais, moi je croyais qu'il allait me libérer, moi je croyais que la vie religieuse ça allait être un lieu merveilleux où j'allais rencontrer le ciel sur la terre, et j'y ai rencontré que des frères, quoi, et des sœurs. Et nous qui pensions que... Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Ah bon, on est triste, hein. Et puis franchement, Dieu t'as rien compris, hein. Que tu nous demandes, t'es bien le seul à pas savoir ce que c'est que la vraie vie, toi. Hein? Toi, Dieu, là, t'es le seul étranger à pas savoir ce qui s'est passé à Jérusalem. Toutes nos prières, Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne me comprend pas, Dieu ne sait pas qui je suis, Dieu ne... Et on s'éloigne encore et encore. Il dit, ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Oui, la sœur est méchante, le frère machin, et puis la supérieure m'a dit, et puis voilà. Ok, d'accord. Allez, on repasse par la parole de Dieu. On repasse par cette parole. Laisse-moi te parler. Laisse-moi voir un petit peu où tu en es. Et peut-être que cet endroit-là qui est blessé en toi, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qui te fait dire tout ça? Est-ce que tu ne t'es pas senti respecté? Est-ce que tu ne t'es pas senti vivant, vivante? Est-ce que quelque chose a été blessé? Je te rejoins là. Et on va marcher même si tu t'éloignes. Et puis, retrouve la communauté après avoir expérimenté que dans l'Eucharistie, dans cette Eucharistie, où on accepte, ce que je disais tout à l'heure, que Jésus se saisisse de notre vie, de toute notre vie, jusque dans les zones les plus obscures, pour la transformer en sa présence et de sa présence, pour retrouver la communauté et l'Église. Ça ne veut pas dire que quand le mal a lieu, il ne se passe rien. Il faut faire comme si de rien n'était. Mais par contre, ce chemin est à faire par tous. Parce que quand ils arrivent à Jérusalem pour dire le Seigneur, on l'a rencontré à Emmaüs, voilà, les autres disent, ouais, c'est vrai, nous aussi, on a fait l'expérience de la résurrection. Donc tout le monde doit faire cette expérience de la résurrection et de la vie nouvelle pour pouvoir effectivement retrouver la communauté dans son lieu, dans son essence, pardon, d'être porteuse de vie. En avons-nous encore l'envie? En avons-nous encore le désir? Alors, nous allons voir cette œuvre d'art, le souper d'Emmaüs, du Tintoret, œuvre du XVIe siècle. Une leçon magistrale. La représentation habituelle de l'épisode d'Emmaüs est celle de l'instant où les deux pèlerins reconnaissent Jésus à la fraction du pain. Chez Rembrandt, par exemple, elle se traduit par la lumière surnaturelle qui baigne la scène et par l'expression stupéfaite des deux compères. Or ici, Tintoret choisit de peindre le moment qui précède immédiatement celui de la reconnaissance. Si Jésus a déjà le pain en main, Et si un nimbe lumineux commence à naître autour de sa tête, nul ne l'a encore reconnu. À gauche, un serviteur lui tend un plat, tandis que l'un des pèlerins devise avec un vieillard. À droite, l'autre pèlerin, plus âgé, lui tourne à demi le dos et semble plus intéressé par la servante qui tend un pichet à un jeune homme. Isolé entre les deux groupes, Jésus semble bien seul. Par cette atmosphère étrange, Tintoret administre une magistrale leçon de vie. L'homme est un animal toujours en mouvement, toujours affolé, qui risque à tout moment de passer à côté de ce qui constitue sa vraie raison de vivre, l'amour, la spiritualité, la prière, le bonheur. Et c'est souvent dans les choses les plus simples. Ici, un peu de pain, un verre manifestement rempli d'eau et non de vin, une chair assez maigre, que l'on trouve ce que l'on, que l'on trouve ce qu'on se croit obligé de chercher dans l'agitation. La juste attitude est indiquée par le Christ, les yeux mi-clos, il nous dit que tout se passe à l'intérieur de nous-mêmes, mais de l'index, il nous invite à regarder vers le haut. Je commençais ce matin par lire Marthe et Marie et l'agitation que l'on pouvait avoir. L'agitation risque de nous faire manquer la présence du Seigneur, un peu comme sur cette scène où le pauvre Jésus semble bien seul. Personne ne regarde. Ils sont tous en train de faire autre chose. Ça peut nous arriver, même dans la vie religieuse, de faire autre chose que de regarder le Seigneur. Oh, pour mille et une bonnes raisons, hein. Toujours. Mais c'est dommage. Alors oui, on a la même table que lui, mais on manque l'essentiel. Je vous remercie.